Nous avons une vingtaine de minutes, puisque Bernard Stiegler doit devoir quitter la salle vers 11h20. Déjà, j'aimerais le remercier pour cet exposé absolument passionnant, plein de pistes de réflexion extrêmement stimulantes. Peut-être, j'ai juste une petite question. Auriez-vous un site ou des éléments sur l'économie contributive où les gens pourraient se référer à ce que vous dites, puisque là, vous avez beaucoup de choses sur la clinique contributive, sur les six piliers ou les six thèmes que vous avez abordé. Est-ce que vous auriez juste un site ou une...
Il y a deux sites, en fait. Un qui s'appelle recherchecontributive.org. Il y a un certain nombre d'informations sur ce qui se passe à Pleine Commune. Et un autre qui s'appelle internation.world. Vous trouverez un certain nombre de choses aussi sur ces questions, mais abordées en direction de l'ONU. Ce qu'on essaye de faire, c'est d'articuler l'échelle des 400 000 habitants de Pleine Commune avec une échelle plus vaste, voilà, à travers ce site-là.
Merci. Alors, je vais laisser la parole à Philippe Mérieux donc pour son commentaire ou le début de la discussion avec Bernard Stiegler.
Merci Benjamin. C'est pas du tout facile d'intervenir après l'exposé de Bernard Stiegler. Surtout que Benjamin m'a donné comme consigne de travailler et de tirer quelques fils sur la question du métier d'enseignant et de la formation des enseignants. Je vais néanmoins tenter de le faire, alors d'une manière un peu désordonnée, mais en repérant quelques éléments sur lesquels j'aimerais bien que Bernard Stiegler puisse réagir. Le premier élément, ce serait celui qu'il a évoqué et qui était évoqué par sa citation introductive autour du calcul. Alors évidemment, pour nous autres enseignants, et en particulier pour les enseignants du premier degré, s'il y en a dans la salle ici, immédiatement cette question du calcul nous renvoie à l'hégémonie du pilotage du système éducatif à travers les évaluations quantitative standardisée. Évaluation quantitative standardisée au niveau international, PISA, mais d'autres, PIRLS, etc. Évaluation quantitative standardisée au niveau national aujourd'hui, dont le développement est considérable depuis 18 mois, et dont les travaux nous montrent qu'ils aboutissent à un appauvrissement significatif des pratiques d'enseignement. Puisque les anglo-saxons, les américains qui ont expérimenté depuis longtemps cette technique, nous montrent aujourd'hui que nous arrivons à ce qu'ils appellent « teaching by test ». Nous enseignons pour le test. Et les savoirs, au sens où vous en avez parlé, sont, dans un effet Givaro en quelque sorte, réduits à ce qui est quantifiable, évaluable et comparable. Et comparable. Pour comparer, il faut évidemment avoir une unité de mesure, une sorte d'euro des connaissances, qui permet les échanges, les classements, qui permet aussi toute une série de manipulations, et en particulier ce qu'on appelle le pilotage par les résultats. Donc peut-être ce serait une première piste de réflexion sur laquelle vous pourriez nous éclairer un tout petit peu. Quel est votre sentiment sur cette sorte de réduction de l'enseignable au calculable? Deuxième piste de réflexion, elle concerne le métier d'enseignant lui-même et la notion de référentiel de compétences. Là encore, nous voyons, et là c'est un peu moins récent, ça prend naissance depuis déjà assez longtemps, nous voyons nos métiers, le métier d'enseignant parmi d'autres, peut-être un peu plus que certains autres, réduits à un ensemble de compétences. Alors, personne ici ne niera qu'il faut des compétences. La question c'est, un métier se réduit-il à l'ensemble des compétences nécessaires pour l'exercer ? Il y a des compétences nécessaires pour être enseignant, mais le métier se réduit-il à ces compétences? Et est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui déborde les compétences, qui renverrait à ce que certains peuvent appeler une mission, et qui est aujourd'hui difficilement, pour reprendre une de vos expressions que vous n'avez pas utilisée ce matin, mais qui est fréquente dans vos travaux, qui serait difficilement grammaticalisable. Et on peut grammaticaliser les compétences. C'est-à-dire qu'on peut énoncer un certain nombre de compétences et considérer que toutes ces compétences constituent le métier d'enseignant. Mais ce qui réunit toutes ces compétences, ce qui leur permet de se projeter, ce qui permet à l'enseignant de faire autre chose que de gérer, au sens purement gestionnaire du terme, que de faire du management de la classe. Hein, l'origine du mot management, ça vient de manège. Hein, le manège, c'est faire tourner le manège. C'est contrôler le manège, le management. Hein. Faire autre chose que manager, que faire de la gestion de classe, transmettre, et transmettre peut-être au-delà d'un certain nombre d'objectifs purement programmatiques, est-ce que c'est grammaticalisable? Est-ce que c'est formulable? Est-ce que c'est formable? Voilà. Si ce n'est pas grammaticalisable, et il me semble que ce n'est pas grammaticalisé aujourd'hui, cela en tout cas, toute cette question de la finalité, des finalités de l'éducation, ce n'est pas grammaticalisé dans les ESPE, par exemple. Il me semble que, pour avoir dirigé une UFM pendant quelques années, j'ai parfaitement vu comment on pouvait grammaticaliser les compétences, difficilement comment on pouvait grammaticaliser ce que j'appelle d'une manière très approximative les missions. Toujours dans cette réflexion-là, je dirais que ça m'a évoqué votre intervention, la manière dont certains enseignants aujourd'hui se vivent et vivent les instructions qui leur sont données comme une forme de prolétarisation. Alors vous avez dit qu'il n'y avait pas que l'ouvrier qui était prolétarisé, mais aussi les patrons. On a le sentiment, chez un certain nombre d'enseignants, qu'ils sont prolétarisés au double sens que vous avez évoqué, d'une part parce que leur métier est réduit à l'exécution de consignes, et d'autre part parce qu'ils sont réduits à être des serviteurs des tableaux Excel, qui devraient être au contraire à leur service. Donc il y a là une question qui me paraît importante. Troisième piste sur laquelle ce serait intéressant de vous entendre, autour de la néganthropie. Quelqu'un que j'ai un peu étudié, un philosophe américain qui s'appelle Neil Postman, que vous connaissez bien, qui s'est beaucoup intéressé à la question des médias, a écrit à 10 ans d'intervalle, en 69 et à 79, deux ouvrages. Le premier s'appelle « Enseigner est une activité subversive ». Et le second enseignait comme une activité de conservation, subversive activity, conserving activity, 69-79. Ce second livre, qui a été traduit en français sous le titre « Enseigner, c'est résister », souligne plusieurs choses à propos de l'enseignement lui-même. Je résume très vite ce que dit Postman. Une pensée qui ne prend pas elle-même l'initiative de sa propre contestation tend inévitablement vers la propagande. Ni inféodée à l'idéologie dominante et à la reproduction sociale, ni subversion marginale pour quelques élus, l'éducation, dit-il, doit être facteur de ce qu'il appelle l'écologie sociale, et il lui donne comme objectif d'être thermostatique. Thermostatique. Le thermostat, c'est, dit-il, ce qui fait monter la température quand il fait trop froid dehors et ce qui fait baisser la température quand il fait trop chaud dehors. Et il dit ce que peut-être parfois les enseignants ont du mal à entendre et qui est difficile à faire entendre au plan politique, que l'enseignant n'est pas assujetti à aller dans le sens des dérives de la société dominante et qu'il a comme devoir de rééquilibrer ces dérives de la société dominante. Et il assigne comme fonction à l'enseignement et à l'école d'une manière plus générale cette tâche de rééquilibrage thermostatique. Alors, est-ce que c'est dans ce sens que vous entendez la possibilité pour un enseignant d'être non seulement dans la néganthropie, mais dans l'anti-anthropie ? Postman souligne deux éléments, mais d'autres depuis ont travaillé aussi sur cette thématique, montrant que dans une société où tout va trop vite, la fonction de l'éducation serait de décélérer, et dans une société de l'individualisme, elle serait d'apprendre à collaborer. Et il insiste sur le fait que la réalité sociale extérieure, qui est de l'accélération et de l'individualisme, ne doit pas nous inviter à concevoir notre métier sur le modèle de cette réalité sociale, à nous aligner sur cette réalité sociale, mais à prendre la mesure de ce que cette réalité sociale nous impose pour contrebalancer les effets pervers, c'est-à-dire l'entropie au sens où vous l'avez souligné, quoique bien évidemment l'entropie n'est ni perverse ni non perverse, elle est tout simplement. C'est le troisième point. Autre point, mais je vais très vite pour que vous ayez le temps de rebondir sur ce qui vous paraît important. Autre point, vous avez dit à un moment dans votre exposé que le savoir, c'était le désaccord. Et vous avez souligné l'importance du désaccord. Il se trouve que j'ai travaillé depuis 2 ans avec la Fondation de France sur un programme de lutte, entre guillemets, contre la radicalisation, avec des élèves de collège de la banlieue lyonnaise, dans une opération qui s'intitule « Tu ne mourras pas ». Et qui travaille à la fois sur les théories du complot, sur l'endoctrinement, etc. Et avec les enseignants qui participent à cette opération, nous avons l'an dernier tenté de rédiger un petit rapport de synthèse, et qu'ils ont souhaité conclure par, dans l'enseignement, le pire ennemi, c'est la certitude. C'est la certitude parce que la certitude, c'est l'enfermement, l'enquistement, le refus de toute recherche, c'est la pensée qui s'arrête, c'est la pensée qui est séduite par un certain nombre de théories faciles qui permettent de croire comprendre immédiatement le monde. Et il faut remplacer cette certitude et faire évoluer l'élève de la certitude vers une dialectique qui est compliquée, est compliqué à instituer dans l'élève, qui est la dialectique entre les convictions et les connaissances. Bien sûr, nous ne sommes pas que des êtres de connaissances, nous sommes aussi des êtres de convictions, mais ce que nous avons tenté d'expérimenter avec ces jeunes, c'est en quoi les connaissances pouvaient agir sur les convictions et en quoi les convictions pouvaient permettre d'accéder à des connaissances, dans une dialectique un peu subtile. Et il nous a semblé que là, l'enseignant avait et pouvait avoir un rôle assez significatif et intéressant, y compris en travaillant autour du numérique, par exemple, et des moteurs de recherche. Quand un élève cherche sur un moteur de recherche, ce qui apparaît en tête, ce n'est évidemment pas ce qui est le plus vraisemblable, c'est ce qui est le plus séduisant. C'est l'attractivité, non la vérité, qui est le critère dans le moteur de recherche. Et comment passer de l'attractivité à la vérité, de la recherche de l'attractivité à la recherche de la vérité, c'est-à-dire comment engager l'élève dans une procédure qui lui permettra d'accéder à des savoirs, dans un processus plutôt qu'une procédure d'ailleurs, un processus qui comprendra des procédures. Il faudra stabiliser des procédures dans le processus, mais comment engager l'élève dans ce processus pour qu'il accède à ses savoirs et à des savoirs, pour reprendre une expression que j'utilise parfois du philosophe Fichte, qui soient, contrairement aux convictions, partageables à l'infini. J'aime bien cette idée que le savoir, c'est ce qui est partageable à l'infini entre tous les hommes, entre tous les humains, pardon, excusez-moi pour cette expression non genrée. Il me semble qu'il y a là quelque chose sur quoi ça m'intéresserait d'avoir votre sentiment. Autre remarque, c'est l'avant-dernière, je vais aller très vite. Vous nous avez invités à aller vers une économie de la contribution, une économie contributive, et je m'interroge sur la manière dont une institution comme un SP pourrait entrer dans une économie de la contribution, contributive. Alors évidemment, moi, en tant qu'universitaire, j'ai déjà un certain nombre d'inquiétudes. Par exemple, le site de mon université n'est pas un site internet qui permet d'accéder à tout un tas de contenus. Il y a des contenus verrouillés, il y a toute une série de contenus protégés, etc. Je m'interroge là-dessus sur la responsabilité des établissements publics, comme les universités, les SP, etc. Mais au niveau du fonctionnement interne, je m'interroge aussi sur la capacité de nos institutions à mettre en place, en matière de formation même des enseignants ici dans un SP, une économie de la contribution. Qu'est-ce que ça voudrait dire qu'une économie de la contribution ? Qu'est-ce que ça voudrait dire qu'une formation fondée sur la contribution de chacune et de chacun et un échange qui ne soit pas organisé en fonction d'une simple sélection des plus adaptés, mais en fonction d'un partage des savoirs professionnels les plus orientés vers une pratique émancipatrice de l'éducation. Et puis, dernière remarque, elle fait le lien avec la thèse présentée par Benjamin Delattre hier. Pour faire gros, je ne vais pas la résumer, il le ferait bien mieux que moi, mais Benjamin opposait en matière d'éducation physique un modèle didactique fondé sur l'adaptation au milieu et la maîtrise de cette adaptation. Il opposait à ce modèle un modèle fondé sur l'adoption, adopté avec l'aspect positif que cela peut avoir, et pas simplement l'aspect répressif et contrainte, adopter d'autres, des outils, mais aussi adopter à travers une empathie envers le monde, adopter le monde comme allié, et non pas comme ennemi, pas en tout cas comme ce dont je ferai un moyen de viser mon intérêt égoïste, au sens où cela a été évoqué par Bernard Stiegler tout à l'heure. Et je pensais, quand vous avez évoqué Canguilhem, à cette distinction que fait Georges Canguilhem entre normalisation et normativité. Et je me disais qu'au fond, peut-être il y avait là une clé intéressante pour nous, pédagogues. La normalisation, au fond, c'est le cancer. C'est toutes les cellules qui sont identiques. C'est un effort pour, d'une façon systématique, travailler à l'homogénéisation, y compris dans ses formes les plus folles. Le cancer étant sans doute une forme de folie biologique, excusez-moi pour cette métaphore sans doute peu adaptée. Et à cela, Georges Canguilhem oppose la normativité quand il explique que la cellule, par exemple, ne peut se développer et changer avec les autres cellules qu'avec des normes, mais qui ne sont pas des normes de reproduction à l'identique, qui sont des normes créées par le vivant lui-même et qui sont engendrées, provoquées par le vivant, par le travail, au sens où vous le dites. Vous avez évoqué le mot travail, et je terminerai par là, ce sera ma conclusion. Et je voulais vous demander si vous vous sentez à l'aise ou pas dans l'opposition que fait Hannah Arendt entre le travail et l'œuvre. Alors, pour ceux qui n'auraient pas tout à fait cela en tête, Hannah Arendt explique que, bon, dans Conditions de l'homme moderne, mais dans d'autres travaux aussi, que ce qu'elle appelle travail, c'est ce qui est corrélatif du cycle biologique de la vie. Nous l'effectuons comme tout organisme vivant, en utilisant la nature pour notre survie. C'est un processus, dit-elle, sans début ni fin. Tout ce qui est produit est destiné à être consommé, rien ne dure. Et c'est un processus dans lequel l'humain travaille toujours d'une manière solitaire et surtout interchangeable. C'est le fait que les êtres soient interchangeables dans le travail qui est important. Elle dit que dans le travail, nous sommes membres d'une espèce, qu'il n'y a aucune individualité. Il nous faut travailler, dit-elle, parce que c'est la condition de notre survie collective. Mais elle oppose à ce travail l'œuvre, qui correspond à l'édification d'un monde, alors, qui pour elle n'est pas naturel. Œuvrer, c'est instaurer, dit-elle, un cadre humanisé qui dépasse notre situation et notre simple survie. L'homme œuvre quand il conçoit et réalise des objets, entre guillemets bien sûr, faits pour durer et qui ne sont pas destinés à la consommation. Pour Hannah Arendt, l'homme qui œuvre est aussi très largement solitaire, mais il n'est surtout jamais interchangeable. Jamais interchangeable. La caractéristique de l'œuvre, c'est que l'homme s'y construit dans son individualité en construisant quelque chose qui, par rétroaction, contribue à son identité. Et cette opposition que j'utilise parfois pour interroger les travaux scolaires, pour dire qu'est-ce qui, dans les travaux que nous proposons à nos élèves relèvent du travail, de l'interchangeable. Et qu'est-ce qui relève de l'œuvre ? Là où la personne peut se construire à travers ce qu'elle fait, cette opposition me paraissait assez pertinente jusqu'à ce que vous évoquiez ce mot « travail » et que vous en fassiez un éloge auquel j'adhère totalement. Alors peut-être si vous avez le temps, mais j'ai posé beaucoup de questions et vous partez dans moins de 10 minutes, pourriez-vous nous dire un mot là-dessus ? Je m'arrête immédiatement, Bernard, en vous remerciant de m'avoir entendu et écouté là, et en vous donnant très vite la parole avant que vous sautiez dans le train.
Merci, merci beaucoup, mille fois. Philippe, je suis vraiment très content que nous poursuivions cette discussion. Mais je vais essayer de répondre tout de suite sur la question de Arendt. Je partage beaucoup, beaucoup de choses avec Arendt. Sur ce plan-là, effectivement, je pense qu'elle reprend à son compte, je dirais, une définition du travail comme « labor », à laquelle je n'adhère pas du tout. D'ailleurs, « work », « werk », ça veut dire « œuvre ». Artwork, par exemple. Donc, et il faut distinguer labor and work. Et le travail, pour moi, c'est le work, ce n'est pas le labor. Labor, c'est le ponos des Grecs, c'est-à-dire la peine que fait l'esclave, etc., qui ne peut pas s'individuer en travaillant. Je vais essayer quand même de... Il n'y a pas beaucoup de temps, mais je vais essayer quand même de répondre autant que possible à toutes vos questions. Donc, je vous remercie beaucoup. Et je vais commencer sur la question de l'évaluation et du calcul. En fait, tout à l'heure, je ne l'ai finalement pas fait parce qu'il fallait économiser le temps, mais je voulais vous parler d'Adam Smith et de son concept de richesse, wealth, dont, à mon avis, il faut le remettre en question. Ce que décrit Adam Smith sous le titre de la richesse, c'est la valeur. Et la valeur, ce n'est pas la même chose que la richesse. La valeur, c'est ce qui suppose des critères de valorisation. Et ces critères de valorisation ne sont pas évaluables eux-mêmes. Et ce que, la richesse, pour moi, c'est ce qui fournit les critères de l'évaluation. Et c'est précisément le savoir qui fournit les critères de l'évaluation. Mais le savoir n'est pas évaluable du même coup à travers ce type de critères. Autrement dit, le savoir, justement, n'est pas comparable. Quand il y a du savoir, si vraiment c'est du savoir, ce que ça produit, c'est de l'incomparable. À partir de là, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas à juger, mais on ne peut pas évaluer. En tout cas, on ne peut pas évaluer selon les critères de quantification. On ne peut que qualifier. Et c'est pour ça qu'il y a des jurys de thèse, par exemple. Un jour, on nous proposera d'évaluer le travail de Benjamin Delattre avec des algorithmes. Et ça sera la fin de tout. Et on est tout près, en fait. On est tout près de cela. C'est extrêmement grave. Nous avons délibéré hier. Donc la délibération, c'est la question fondamentale. Il faut revenir sur la question de la délibération. Le pilotage par résultat, c'est ce qui exclut cette dimension délibérative. Et c'est ce qui substitue la compétence au savoir. Alors, comme vous l'avez dit, moi-même, je suis bien conscient qu'il faut de la compétence. On a des compétences, ce sont des acquisitions procédurales, voilà, qu'il faut être capable de faire, disons. Mais en même temps, en aucun cas, ce qu'on doit transmettre est simplement de la compétence. La compétence, aujourd'hui, les DRH, par exemple, ne parlent que de compétences, de profils de compétences, de bilan de compétences, etc. Or, ce dont on a besoin, dans un monde où on doit lutter contre l'entropie, c'est de savoir et pas de compétence. La compétence ne fait que reproduire ce qui augmente l'entropie. Ici, la question de la grammatisation, c'est un sujet extrêmement important et complexe. J'aime bien citer, je le dois d'ailleurs à un collègue dont, sur le moment, j'arrive malheureusement plus à retrouver le nom, j'aime bien citer cet éventail de Paul Claudel qui dit « Il faut qu'il y ait dans le poème un nombre tel qu'il empêche de compter ». Pour moi, il n'y a pas d'opposition entre calcul et savoir. Il peut y avoir réductionnisme computationnel, on est en plein dedans aujourd'hui, mais en même temps, il n'y a pas de savoir sans calcul. Donc la question n'est pas de s'opposer au calcul, la question est de sans cesse le dépasser, le calcul. Mais pour pouvoir le dépasser, il faut le pratiquer. C'est ce que dit Paul Claudel dans cet éventail. Il faut qu'il y ait dans le poème un nombre tel qui l'empêche de compter. C'est une question de poète, mais c'est aussi une question de musicien. Les musiciens sont aussi des gens qui travaillent avec des nombres, en fait. Comme vous le savez, la musique, au départ, c'était l'arithmétique pour les Grecs, d'ailleurs. Et c'est extrêmement important de revenir à ces questions-là. J'y insiste parce que je vais revenir aussi sur les digital studies dans un instant, ce que j'appelle les digital studies. La prolétarisation en cours aujourd'hui qui touche tout le monde, y compris Emmanuel Macron, y compris le ministre de l'Éducation nationale, tout le monde, vous et moi, personne ne peut y échapper parce que c'est le poids du calcul qui nous court-circuite parce qu'il va beaucoup plus vite que nous. Et c'est un état de fait. Cet état de fait est absolument catastrophique. Il faut donc permettre de le remettre en question. Il faut remettre en question le maintien de cet état de fait qui est catastrophique. C'est lui qui conduit dans la catastrophe que dénonce Antonio Guterres, qui n'est pas un gauchiste vous voyez ce que je veux dire. C'est un diplomate qui réfléchit beaucoup, etc., mais qui prend ses responsabilités. Donc il nous faut prendre, nous aussi, nos responsabilités et amener les autres à les prendre. Et dans la logique de Postman, bien entendu. C'est-à-dire que oui, en effet, il faut à la fois subvertir et conserver. Nous sommes là pour maintenir, pour produire ce qu'on appelle aujourd'hui de la résilience, mais en même temps, pour qu'elle se produise, il faut de l'anti-entropie, ce que Postman appelle l'activité subversive. Et si on ne tient pas les deux, on n'a rien. Aujourd'hui, pour pouvoir tenir les deux, il faut étudier le numérique. Et quand je dis le numérique, j'ai tort. Je devrais dire les Digital Studies. J'ai créé un groupe qui s'appelle Digital Studies Network. Ça aussi, vous pouvez le trouver en ligne. Ça s'appelle digitalstudies.org. Ce groupe-là étudie les digits, c'est-à-dire les doigts. Depuis le début de l'homme, ce sont les doigts qui ensuite sont intériorisés, calcul mental qui est une intériorisation de calcul sur ses doigts, etc., etc., qui conduisent finalement au digital, c'est-à-dire au nombre. Voilà. Toute cette longue histoire à 3 millions d'années, à travers l'exosomatisation, il faut la reprendre en entier pour repenser toutes les conditions d'apparition des formes de savoir, et aussi pour represcrire les technologies numériques dans un sens qui n'est pas le computationnel, mais le délibératif, et pour mettre en œuvre, eh bien justement, ce désir de savoir fondamental qui est au cœur de vos travaux, et dont parle Fichte. Le savoir partagé à l'infini, c'est la figure de l'objet du désir. L'objet du désir est toujours un objet infini. Faute dernière question sur la faisabilité de tout cela, finalement. Comment impliquer, par exemple, comment introduire cette question liée à l'économie contributive ou à la recherche contributive, par exemple, dans une SP. En fait, moi, j'ai commencé à travailler sur cette thèse en réponse à Vincent Payon, qui m'avait demandé... Je connaissais un peu. Il m'avait demandé de présider une commission sur le numérique à l'école. Et j'ai consterné absolument tout le monde, à commencer par son directeur de cabinet, lorsque j'ai ouvert la séance en disant « Le numérique à l'école, c'est très dangereux. » Il y avait Google, il y avait Microsoft, il y avait tous ces gens-là qui ont dit « Mais qu'est-ce que c'est que ce président de groupe ?» Voilà. Et je me suis fait gentiment remercier. Voilà. Après, j'ai eu l'occasion de discuter par Skype avec Vincent Payon pendant un congrès qui a eu lieu à Brest, où j'ai dit, écoutez, parce que j'avais par ailleurs proposé dans ce groupe de dire il faut des représentants du ministère de la Recherche, il faut que les chercheurs soient présents, etc. Et moi, le cabinet m'avait dit non, il a demandé la recherche, on ne lui a pas donné, donc on ne travaillera pas avec le ministère de la Recherche. Je lui ai dit, vous êtes irresponsable. Parce que l'académique, c'est un système. Donc il y a un problème de formation des enseignants. Les enseignants ne peuvent pas former des élèves qui n'ont pas même été formés, etc., etc. Et là, on m'a dit, ah ben, vous êtes vraiment un rêveur philosophe, c'est-à-dire vous croyez qu'on a le temps, les élèves, ils ont des smartphones dans les poches, donc on ne peut pas se permettre de lancer des thèses pour faire de la recherche. Et donc j'ai proposé la recherche contributive en disant lançons des thèses, 500 thèses par an, et obligeons tous les thésards à travailler avec des profs de maths, des profs de géographie, des profs de lettres, etc. Faisons que les profs deviennent eux-mêmes des chercheurs, que les élèves eux-mêmes deviennent des chercheurs, que les parents des élèves eux-mêmes deviennent des chercheurs. Chercheurs au sens de la recherche-action, et au sens où je mobilise moi beaucoup la psychiatrie institutionnelle et aussi les modèles Gregory Bateson dans la lutte contre l'alcoolisme chez les alcooliques anonymes, où on peut impliquer toujours les patients, les gens qui ont besoin de se soigner pour qu'ils produisent de la recherche. C'est ce que Guattari avait repris chez Toscaillas à la clinique de la Borde, et où, comme vous le savez, les personnels soignants, tous, y compris les gens qui nettoyaient les salles, les assistants de ceci ou de cela, mais aussi les infirmiers, mais aussi les malades, les patients, étaient tous en recherche, collectivement. Et ça, c'est tout à fait praticable. Je le fais depuis maintenant 2-3 ans en Seine-Saint-Denis. Donc je pense que ça peut se faire. Et d'ailleurs, j'ai proposé à Benjamin qu'on discute de voir comment on pourrait essayer de faire des choses ensemble avec la Seine-Saint-Denis depuis quand. Et là, je suis obligé de vous quitter. Je vous demande pardon parce que je ne peux absolument pas rater mon train. Je suis vraiment désolé. Je vous remercie beaucoup et j'espère qu'on se retrouvera très bientôt. Merci bien.
Alors, il nous reste une demi-heure à peu près pour poser des questions. Donc notamment à Philippe Mérieux qui va essayer de...
pas seulement poser des questions, parce que je ne suis pas nécessairement le mieux placé pour répondre par rapport à l'exposé de Bernard Stiegler, mais pour vous exprimer et réagir et échanger vos réactions à partir de ce qui a été dit.
Et donc si vous avez des interventions, des questions, des suggestions.
Oui, voilà, j'aimerais revenir sur... Oui. Donc, sur l'entropie, parce qu'il me semble qu'une comparaison a été faite entre l'univers, finalement, scientifique et, finalement, le système éducatif et le modèle économique, le capitalisme et notre société actuelle. Et, finalement, pour moi, l'entropie, d'un point de vue scientifique, est un petit peu indépendant de nous, dans la flèche du temps. En fait, on ne peut pas lutter contre l'entropie, sauf en ralentissant peut-être le temps lui-même. Mais comment pourrait-on lutter finalement contre l'entropie ou contre les acteurs de l'entropie dans notre société ?
Peut-être, Benjamin, vous qui connaissez mieux que tout le monde ici la pensée de Bernard Stiegler, vous pouvez ébaucher une réponse.
Ça va être ébaucher une réponse, parce que chez Bernard Stiegler, le travail, l'entropie, la négentropie, ça apparaît autour de 2016-2017, donc c'est assez récent. Et l'appropriation de ces concepts, on voit bien qu'il y en a beaucoup. Il y a l'entropie, la négentropie, l'anti-entropie. Et en fait, il y a un mouvement intellectuel qui, globalement, il part de la physique, en disant il y a l'entropie, on va dire la destruction, pour le dire très très rapidement, et la négentropie qui serait la construction, pour le faire très, très simplement. Ce sont des notions physiques. Ces notions physiques, il les intègre dans le champ de l'entropie, mais là au sens de l'anthropos, au sens de l'anthropologie. Donc l'entropie et la négentropie deviennent, le E est remplacé par un A, et donc chez Bernard Stiegler, la négentropie, en fait, c'est la coagulation de savoir collectif. C'est le fait de contribuer collectivement à produire des savoirs dans des localités qui peuvent être une famille, qui peuvent être une classe, qui peuvent être des structures très très différentes. Et par exemple, la notion d'anti-entropie qu'il a utilisée aujourd'hui doit être très très récente. Et c'est ça un petit peu à la fois la puissance et la complexité de la pensée de Bernard Stiegler. C'est que dans une trajectoire d'une trentaine d'années, vous avez, je pense, une centaine de concepts qui sont une réappropriation d'anciens concepts, qui lui permet justement de penser toujours la modernité, le temps actuel, dans une perspective d'avenir. C'est-à-dire que chez Stiegler, si vous l'avez un petit peu compris, là, c'est des mises en relation entre des choses qu'on ne pensait pas du tout possiblement mettre en relation, Karl Marx et puis Amartya Sen, par exemple. Bon, il s'avère que c'est deux philosophes économistes, mais personne n'avait fait cette relation entre Karl Marx et Amartya Sen. Et donc vous avez dans son mouvement un petit peu intellectuel, et ça vous l'avez remarqué dans son discours, parce qu'il le fait extrêmement souvent en référence, à la fois à l'étymologie ou autre, c'est le retour aux origines. C'est-à-dire que quand il pose un problème, il pose le problème depuis l'origine du problème. C'est un petit peu ce qu'il posait tout à l'heure sur la question du numérique. C'est-à-dire quand on lui pose la question au niveau, je dirais, politique de qu'est-ce qu'on fait avec le numérique, il dit, attendez, on va voir comment ça se passe depuis le bout des doigts, depuis le départ, depuis les zinzanthropes, depuis que le roi Gouran a fait ses études sur ces travaux-là. Et on va étudier tous les gens qui ont fait ces travaux, on va essayer de faire une accumulation de connaissances pour comprendre comment ça se passe, pour qu'à un moment donné, quand on pose le problème, on le pose bien. Et vous voyez bien que ça s'appelle le temps long, et que le temps long, dans le temps du calcul et de la vitesse, c'est extrêmement difficile à mettre en place. Donc quand on parle de négentropie chez Stiegler, c'est une lutte contre l'entropie, mais en faisant ou en considérant que de toute façon, ces deux dimensions sont, il appelle ça transductive, c'est-à-dire qu'on ne peut pas les séparer. Il y aura toujours de l'entropie, possiblement de la négentropie, et pour faire de la négentropie, il faut faire de l'entropie, en fait, l'objet de travail. Il faut faire de la destruction l'objet de travail, et c'est globalement ce qu'il disait quand il parlait des élèves de lycée, et quand il parlait des universités, il faut faire de l'entropie et de la négentropie un objet de travail. Donc c'est-à-dire qu'il faut que les enfants, les adolescents, les jeunes adultes, les parents comprennent ce que c'est que le processus d'entropie et de négentropie quand on construit un savoir. Et comprennent ce que c'est que la bêtise et le désir. C'est-à-dire la bêtise, quand il évoquait Nietzsche, etc., c'est le fait qu'à un moment donné, quand on sait quelque chose, on le répète, on le répète, on le répète, ça devient un automatisme et qu'on n'est plus capable de le désautomatiser. Et donc chez Stigler, et on voit, c'est pour ça aussi qu'il a une espèce de production de concepts absolument considérable, c'est qu'il réinvestit toujours ses propres concepts. Moi, j'ai commencé par exemple par le concept d'individuation, qui a été pas cité aujourd'hui, alors que Stigler a travaillé pendant 20 ans sur ce concept. Il fait évoluer énormément son travail intellectuel. Et donc l'une des difficultés, je dirais, de cette œuvre-là, c'est d'essayer d'en faire un travail un peu synthétique, et puis de pouvoir discuter avec ça. Parce que vous voyez, discuter avec Bernard Stigler, quand même, c'est pas évident. Hein ? Quand vous voulez poser une question, vous voyez, bon, c'est la question, il faut quand même des gens comme Philippe Mérieux pour pouvoir aborder 2, 3, 4, 5, 6 points extrêmement construits qui permettent de mettre à l'épreuve tout cela. Parce qu'il a une réponse à peu près à toutes les questions, sachant qu'il peut répondre en 2015 d'une certaine façon et en 2018 d'une autre façon. C'est-à-dire en ayant toujours une espèce d'évolution dans sa pensée. Et pour le dire très simplement, je dirais que si on peut garder un mot de cette œuvre-là, c'est le mot de contribution. Un mot très simple, assez facile à comprendre, qui dit globalement, quand on produit quelque chose, on le produit pour nous-mêmes, on le produit pour les autres, et on fait en sorte que cette contribution, elle puisse diffuser dans des sphères plus ou moins importantes. Alors avec Stigler, vous avez l'articulation entre le micro et le macro. Vous avez vu, quand il parle de la Seine-Saint-Denis, il parle d'une clinique contributive, c'est-à-dire un ensemble de familles, qui sont des gens, c'est très peu en fait, hein, en nombre de personnes, mais par contre, le mouvement intellectuel qui est derrière ça, c'est de dire on peut en faire un modèle expérimental qu'on va tester sur le plan macroéconomique. Et donc c'est en ça qu'il est assez différent de Foucault, par exemple, ou de Deleuze, qui sont plutôt sur du micro-moléculaire, sur des micro-investissements, sur la clinique de la Borne, par exemple, dont il parlait tout à l'heure. Et donc c'est ça un petit peu, à mon avis, hein, à la fois la richesse et l'intérêt de cette œuvre-là, c'est qu'on ne peut jamais la répéter. On ne peut pas répéter ce que dit Bernard Stigler, ça n'existe pas, ce n'est pas possible. Par contre, on peut toujours l'investir dans nos espaces personnels. On peut l'investir en tant que prof de sciences de la vie et de la terre, on peut l'investir en tant que formateur dans un SP, on peut l'investir en tant que parent, on peut l'investir en tant que, etc., etc., etc. Chacun à nos échelles, il faut un petit travail de traduction, et vous voyez que son œuvre orale est extrêmement claire, extrêmement limpide. Et c'est pour ça qu'il travaille toujours avec de la vidéo, pour que les gens aient la possibilité de relire et de recomprendre quelque chose qui a été synthétisé en une demi-heure ou trois quarts d'heure. Et l'un de ces travaux qui est mené, vous pouvez télécharger ça hein, sur le site de l'IRI, c'est un logiciel en fait, où vous captez une vidéo de cette conférence par exemple, et puis vous pouvez l'annoter. Vous faites des annotations sur les vidéos. Et le principe étant que l'annotation puisse être en controverse. Ça veut dire que vous avez annoté avec vos idées personnelles, etc. D'autres personnes l'auront fait. Vous êtes par exemple dans une même classe, dans un même groupe. Et puis vous allez confronter vos idées au regard de cette conférence. Donc quand on dit classe inversée, par exemple, ça c'est un modèle, quelque part, en quelque sorte, je ne sais pas si on peut dire comme ça, mais en tout cas, de classe inversée, en tout cas de classe où au moment où on est en classe, on est en controverse. On est en débat, et le moment où on en a capté les connaissances, c'est un moment où on est un peu dans une phase individuelle, parce que le numérique nous le permet maintenant, de nous approprier un peu individuellement un ensemble de faits, un ensemble d'éléments, un ensemble de raisonnements. Et le moment de la discussion, c'est le moment de la controverse, c'est le moment de la construction de savoir. Donc vous avez un petit peu tout ça dans l'œuvre de Bernard Stigler, et vous avez aussi deux types d'ouvrages, des ouvrages très très difficiles à lire, mais très impressionnants, très puissants. Je pense à De la misère symbolique, tome 1 et 2, par exemple, 2004-2005, sont des ouvrages extrêmement passionnants. Et vous avez ce type d'ouvrages qui sont en fait des synthèses de travaux que des personnes ont essayé de proposer à Bernard Stigler une espèce de vulgarisation, le mot ne serait pas juste, mais en tout cas de clarification d'un certain nombre de points pour qu'un public large puisse accéder à son raisonnement. Parce que ce qu'il met vraiment en évidence, je crois, c'est que ce que nous sentons tous venir, eh ben en fait, lui, il le formalise, il le formule. Et donc, quand il parle maintenant de l'entropie, de la négantropie et de l'hyperentropie, en fait, il y a encore 10 ans, il ne parlait pas de ça encore. Il parlait de la télévision pulsionnelle, il parlait du 11 septembre, il parlait des personnes, de 4 personnes qui avaient fait des passages à l'acte extrêmement graves, à détruire leur propre famille, par exemple. Parce que ces gens étaient détruits psychiquement par les médias, par tout un tas d'éléments qu'ils ont captés, qui les ont captés et qui ont commandé un petit peu leur psychisme. Et donc, il a toujours, disons, fait évoluer sa pensée au regard des évolutions des questions contemporaines, en tout cas des faits contemporains. Et donc, c'est pour ça que c'est une œuvre assez difficile à suivre, parce qu'elle est programmée, quelque part, depuis le départ, depuis le début des années 90. La technique et le temps, tome 1, jusqu'à la technique et le temps, tome 6. On est rendu à la technique et le temps, tome 3, parce qu'entre-temps, il y a eu 25 livres qui ont parlé de choses différentes, tout en revenant au même sujet. Mais son sujet, je veux dire, très fort, c'est ce qu'il a évoqué tout à l'heure quand il parlait du Ménon de Platon. C'est une toute petite phrase en italique, tout petit. Socrate échange avec sa maïotique, avec l'esclave de Ménon, où il essaye de lui faire comprendre le fonctionnement du carré, lui faire réapparaître la réminiscence de la compréhension de ce que c'est qu'un carré et de sa proportionnalité. Il dessine tout simplement sur le sable la démonstration. Et donc ce que montre Stigler à l'origine de son œuvre, c'est que ce geste-là de dessiner sur le sable, c'est-à-dire de stabiliser la pensée dans quelque chose qui n'est pas dans le corps de la personne, c'est ce qui fait qu'on peut vraiment accéder au raisonnement. Et la deuxième étape de cela, c'est qu'il dit que si tout est maintenant à l'extérieur de soi, dans des supports, dans des machines, et que la personne ne peut plus se les réapproprier, ça devient un prolétaire. Ça devient quelqu'un qui finalement a déposé son savoir en dehors de lui-même, et donc ne peut plus le réapproprier. Et c'est en ça qu'il différencie adaptation, où je m'adapte à des machines qui finalement me dominent, et adoption, où je vais me réapproprier tous ces supports, toutes ces connaissances, tous ces savoirs, mais sans négliger le fait que ces choses-là nous font gagner quand même pas mal de temps. Et donc voilà, si on peut répondre sur entropie et négentropie, il faut revenir un peu à l'origine de la pensée de Bernard Stiegler, c'est-à-dire comment il en est venu là. Il en est venu avec la question de l'individuation, de l'idiotexte, c'est-à-dire de l'être singulier. Ce qui intéresse Stiegler, c'est le singulier. C'est l'individu qui n'est pas calculable, formalisable, qui est singulier, et il est singulier parce qu'il participe à l'évolution de son groupe. Pas forcément en présentiel. Il participe à l'évolution d'un groupe. Voilà, si on peut faire une toute petite réponse à l'entropie et à la négro.
Toute petite, alors.
Non, vous avez vu qu'on n'a plus Bernard Stiegler, mais on a quand même quelqu'un qui connaît bien son travail et qui s'est approprié d'une manière tout à fait exceptionnelle. Dans le prolongement, mais d'une façon moins directement liée à l'œuvre de Bernard Stiegler, par rapport à votre question, je crois que l'entropie, c'est moins la destruction, pardon, Benjamin, que processus de l'agonie, hein, agonie programmée de notre univers et de nous-mêmes. Hein. Nous sommes agonisants. Et cette agonie, Stiegler l'a dit tout à l'heure, bien la vie peut la mettre en échec quelque temps. Et la vie est toujours un travail, au sens où il l'a défini, et un travail qui nécessite un surgissement, quelque chose qui refuse cette entropie. Alors, moi j'aime bien la distinction qu'il fait dans son dernier ouvrage, donc qui s'appelle « Qu'appelle-t-on penser ? P-A-N-S-E-R » parce qu'il n'a pas développé, mais il y a l'idée de soin aussi très fortement chez Stiegler, et qui est l'ouvrage qui a été publié il y a quelques semaines. Hein. Dans « Qu'appelle-t-on penser ? » il distingue assez vigoureusement négentropie et anti-entropie. Alors si on prend le cas du système scolaire, du système éducatif, qui est en réalité le système scolaire, ce qu'on appelle le système éducatif chez nous, c'est le système scolaire. L'éducation va bien au-delà du système scolaire. Si on prend le système scolaire, la négentropie, c'est l'institution, au sens de la pédagogie institutionnelle. C'est l'instituant, dirait-on, comme on disait quand j'étais petit. C'est l'instituant qui permet de faire tenir debout, c'est le sens étymologique du verbe instituer, à un moment donné, un projet. Voilà. Et cet instituant, il lutte toujours contre les forces anthropiques, qui sont celles qui s'expriment à travers la schizophrénie naturelle de toute organisation, et non pas de toute institution, entre ce que l'on annonce et ce que l'on fait. Puisque ce que montre Stiegler dans plusieurs textes, et que je partage totalement, c'est que la caractéristique de la plupart de nos organisations, c'est d'être complètement clivé entre des objectifs généraux et généreux, contre lesquels personne ne peut aller contre. Hein. Bon, on lutte pour l'épanouissement de l'enfant, pour une société plus solidaire, etc. Ça ne mange pas de pain, C'est les projets d'établissement, les projets d'école, les projets... Mettez ça dans un checker, hein, on va faire une évaluation des besoins, prendre en compte les spécificités du territoire, organiser les acteurs dans une logique de co-construction, etc., etc. Et puis on fabrique un projet, on met une pièce, et puis on peut fabriquer comme ça des textes à l'infini. Ça, ce sont des textes de ce qu'on pourrait appeler, pour reprendre une expression de Fernand Houry, la pédagogie intentionnelle. Bon. C'est des intentions générales et généreuses contre lesquelles personne ne va aller. Et puis il y a la réalité des pratiques. La réalité des pratiques qui fonctionne, elle, à l'économie, c'est-à-dire à l'entropie, à l'économie. Ce qui dépense le moins d'énergie et fait fonctionner la machine avec le plus de rentabilité. Hein. Alors, entre l'une et l'autre, entre les finalités et les modalités, l'accord n'est absolument pas garanti. Et ce qu'il montre, et que je partage totalement, c'est que c'est un combat permanent que de chercher à mettre de la cohérence dans des organisations qui sont perpétuellement clivées entre leurs finalités et leurs modalités. Personne n'est contre l'autonomie des élèves dans les classes. Bien sûr, tout le monde va dire qu'il faut former à l'autonomie. Maintenant, concrètement, les pratiques, c'est quoi ? Hein ? C'est qu'un élève de terminale, bon, il est traité globalement comme un gamin de sixième, hein, qui lui-même est globalement traité comme un gamin de CP. Dans son rapport au travail scolaire et à la scolarité. Et que donc la question de l'autonomie est là, en permanence, brandie comme un étendard, mais que la question de savoir comment cette formation à l'autonomie s'incarne concrètement dans des dispositifs émancipateurs, c'est une question qui est rarement posée. Et on pourrait dire, pour reprendre une formulation que j'emprunte là à Daniel Hamelin, que le rôle le plus subversif du pédagogue aujourd'hui, c'est de parcourir sans cesse dans les deux sens la chaîne qui va des finalités aux modalités. Vous déclarez qu'il faut que les gens soient autonomes, mais concrètement, vous faites quoi ? Concrètement, vous instituez quoi pour que cette autonomie soit autre chose qu'un étendard facile, qu'un lieu commun éducatif ? Hein ? J'ai passé une partie de mon travail à décortiquer les lieux communs éducatifs. Bon, l'élève doit être actif, on doit le former à l'autonomie, il faut qu'il coopère avec les autres, tout ça, c'est des lieux communs, personne n'est contre. Bon. Mais personne n'est contre, sachant qu'est-ce qu'on met derrière. Par exemple, si on prend un lieu commun par excellence, le respect de l'enfant, on voit bien que derrière le lieu commun respecter l'enfant, il y a une multitude d'acceptions possibles. On peut respecter l'enfant tel qu'il est, y compris en disant... c'est pas la peine de lui faire apprendre quoi que ce soit puisque ce serait à l'encontre de ses aspirations naturelles, ou bien considérer que le respect de l'enfant c'est aussi lui permettre de découvrir d'autres horizons et de se dépasser à un moment donné de son évolution. Donc traquer les lieux communs, c'est traquer les ambiguïtés de ces lieux communs, et c'est aussi ensuite se demander comment ces lieux communs peuvent s'incarner concrètement dans des modalités, dans des dispositifs au sens de Castoriadis, hein. Castoriadis définit la notion de dispositif, pas du tout au sens de Foucault. Foucault a une vision très négative du dispositif, hein, le dispositif foucauldien, comme ce qui sera développé plus tard, peu de temps après, par Deleuze, dans les sociétés de contrôle. Le dispositif foucauldien, c'est un dispositif de dressage, d'en surveiller et punir. Il y a d'ailleurs, à mon avis, d'en surveiller et punir quelques exagérations de Foucault, en particulier sur l'école mutuelle, qu'il interprète comme un dispositif de dressage, alors qu'il était, à mes yeux, un dispositif plus émancipateur que le modèle simultané de Jean-Baptiste de La Salle. Mais bon, tout ça, c'est évidemment tout un débat. Donc, traquer les lieux communs dans leurs ambiguïtés, mais aussi, et c'est ça qui est important, instituer des dispositifs qui permettent que ces valeurs de vie, pour reprendre l'expression de Stigler, s'incarnent dans le concret. Et que l'entropie naturelle de l'organisation, qui est le management, au sens de faire tourner le manège, hein, que l'entropie naturelle de l'organisation ne prenne pas en permanence le pas sur ce qui est l'institution tenir debout, c'est-à-dire ce qui incarne les finalités pour lesquelles on milite et on lutte. Hein, on est tous d'accord pour dire qu'il faut une éducation émancipatrice, qu'il faut une formation d'adulte dans les espèces. Mais qu'est-ce que ça veut dire quand on dit qu'il faut une formation d'adulte, par exemple, hein ? Qu'est-ce que ça signifie et comment on place la séparation entre l'éducation et la formation ? À quel moment on la place et... bon. Tout ça, ça fait partie des questions, et chez Stigler, et là je partage vraiment son analyse, la néganthropie à ce titre est un travail constant et jamais achevé. Parce que précisément, vous l'avez dit, l'entropie est là, avec ce tropisme de l'institution qui fonctionne à l'économie, qui fonctionne au management, au manège qui tourne, hein, et que arrêter le manège pour dire « mais qu'est-ce que vous fabriquez réellement, concrètement, avec les personnes ?»« Hein, qu'est-ce que vous fabriquez ? Mais qu'est-ce que tu fabriques ?» Hein, arrêter le manège pour poser cette question, c'est créer de l'institution et c'est lutter contre l'entropie, c'est de la néganthropie. Alors après, dans ce dernier ouvrage, Stigler distingue le caractère instituant de la néganthropie du caractère subversif de l'anti-entropie. Hein ? Subversif, c'est-à-dire qu'il va au-delà de ce travail d'institutionnalisation et qui est un caractère, qui a un caractère de subversion au sens de dépassement. Il l'a évoqué ce matin dans son travail. Dépassement qui consiste à... Alors, il y a 8 conditions qui sont énoncées dans son dernier livre, hein, de ce qu'il appelle l'anti-entropie. 8 conditions que je ne vais pas vous lire parce que ce serait trop fastidieux, mais qui renvoient à 8 impératifs essentiels et qui ont été d'ailleurs très bien synthétisés et résumés par Benjamin il y a un instant, quand il parle d'adoption. Alors, adoption, ça dépasse à mes yeux assez largement le terme utilisé quand j'étais moi-même en formation et qui est resté très longtemps à la une, qui était le terme de construction des savoirs. Hein, le terme de construction des savoirs qui a donné lieu à une multitude d'ambiguïtés d'ailleurs et qui donne lieu encore aujourd'hui à une multitude d'attaques. Hein, de gens qui font semblant de ne pas comprendre que ceux qui prônent la construction des savoirs ne prônent pas l'autoconstruction, au sens où il n'y aurait ni contrainte, ni intervention de l'adulte, ni matériaux, ni dispositifs proposés, etc. Si vous prenez par exemple le dernier livre de Stanislas Dehaene, « Apprendre », point d'exclamation, il y a 30 pages pour descendre en flèche qu'il appelle le constructivisme, qui sont un contresens à mes yeux fondamental sur la réalité de ce qu'a été le constructivisme en pédagogie, qui n'a jamais été l'abstention pédagogique. Le constructivisme n'a jamais consisté à mettre 3 élèves de terminale autour d'une table en leur disant de reconstruire eux-mêmes la relativité générale d'Einstein, hein, ni même à mettre 4 élèves de CM2 pour leur demander d'inventer la règle du participe, d'accord du participe passé avec le verbe avoir. Ça n'a jamais été ça, le constructivisme. Mais Dehaene fait semblant de croire que ça a été ça. Peut-être il le croit réellement, et il le combat d'une manière extrêmement vigoureuse au nom d'une conception qu'il appelle active et interventionniste de l'action pédagogique sur les structures cérébrales. Bien, je pense que le terme de constructivisme, qui a été à un moment donné très important pour nous faire progresser dans la réflexion pédagogique, peut aujourd'hui être revisité à travers la théorie de l'adoption, telle que l'a évoquée Benjamin, tel qu'il a développé dans sa thèse. C'est-à-dire la relation avec le milieu, la relation avec des outils techniques, la capacité dans laquelle on se trouve d'utiliser ces outils dans une perspective de déprolétarisation. Et là, il y a quelque chose de très important. Alors, je vais vous lire un extrait de la thèse de Benjamin à cet égard, qui me paraît tout à fait éclairant, que j'ai lu hier au cours de sa soutenance. Benjamin, reprenant les analyses de Stigler, dit « Si les organes techniques ne viennent pas se coupler aux organes du corps pour augmenter sa puissance d'agir, mais tendent à remplacer ses fonctions sensorielles, cognitives et motrices, il n'est plus praticien mais prolétaire. » Je pense que c'est ça qui est probablement un des enjeux majeurs de l'activité pédagogique aujourd'hui. Est-ce que les organes techniques que nos élèves manipulent sont suffisamment couplés avec les organes du corps, mais le corps comprend l'esprit, bien évidemment, l'intelligence, le cerveau, pour augmenter leur puissance d'agir, leur puissance de décider? Ou bien est-ce que ces outils techniques vont remplacer les fonctions sensorielles, cognitives et motrices, au point que le sujet va devenir une sorte d'appendice de ces organes techniques. Voilà. Et là, il y a, me semble-t-il, tout un champ de réflexion pédagogique qui est à travailler autour, effectivement, de la réappropriation du numérique et d'une réappropriation subversive du numérique. Parce que ce qu'il appelle l'anti-entropie, c'est vraiment cette réappropriation. C'est le fait de dire et de montrer que non, nous ne laisserons pas le numérique nous envahir à travers les GAFA, les GAFAM, nous ne laisserons pas les smartphones gérer notre vie, nous gérerons notre smartphone. Et encore, le mot « gérer » est ici, me semble-t-il, mal utilisé et pas dans la bonne signification. Et donc, ce caractère d'anti-entropie, là, appliqué très précisément à cette idée de prolétarisation, me semble-t-il, interroge très fortement les pratiques et les interroge et interroge les pratiques pédagogiques d'une manière à la fois très traditionnelle, parce que cette interrogation sur les pratiques pédagogiques, on pourrait la trouver déjà chez Pestalozzi, dans la lettre de Stans, ou à la fin dans le Chant du Cygne, quand il évoque sa méthode et qui dit que toute méthode doit être dépassée, etc., etc., y compris par celui qu'il a utilisé et qui montre comment, y compris la méthode d'apprentissage de la lecture doit être dépassée, comment il faut sortir de l'assujettissement à sa propre méthode. Donc elle est très classique dans l'histoire de la pédagogie, cette problématique-là, et elle est en même temps très nouvelle. Elle est très nouvelle parce que l'arrivée de nos prothèses technologiques, qui ne sont plus des prothèses, puisque nous devenons les prothèses de nos prothèses, l'arrivée de ces prothèses technologiques renouvelle quand même assez sensiblement et même assez considérablement la configuration de nos classes, et en particulier, mais il ne l'a pas évoqué Bernard, parce qu'il a tellement de thématiques qu'il ne pouvait pas toutes les évoquer, et en particulier sur la question de l'attention. Parce qu'un des enjeux majeurs de la déprolétarisation, c'est la construction de ce qu'il appelle des dispositifs attentionnels. Moi, je partage aussi largement son analyse là-dessus. Si vous vous intéressez à cette question de l'attention, qui pour moi est vraiment une question fondatrice aujourd'hui, je crois qu'il faut lire par exemple les travaux de Citon sur l'écologie de l'attention, où il montre que l'attention n'est pas d'abord une qualité individuelle, qu'elle n'est pas l'objet d'un effort individuel. Dire à une classe Dupont, Duchemol, Ahmed ou Sarah, sois attentif, n'a pas de sens, dit Citon. L'attention se construit dans des dispositifs attentionnels. Anthropologiquement, les dispositifs d'attention, c'est les dispositifs sacrés, c'est le moment où un collectif se donne des outils d'attention conjointe, où on passe de l'attention réciproque, mère-enfant par exemple, à l'attention conjointe, et quand on regarde ensemble quelque chose, et l'attention conjointe se construit dans des dispositifs attentionnels, que ce soit les dispositifs judiciaires, les dispositifs artistiques, les dispositifs sportifs qui sont des dispositifs attentionnels. Un stade de foot, c'est un dispositif attentionnel, comme une salle d'opéra, comme un tribunal. Et la question qui se pose aujourd'hui, c'est bien que la classe n'est plus un dispositif attentionnel. C'est-à-dire qu'elle a perdu totalement sa capacité instituante en tant que dispositif attentionnel. L'élève arrive en classe avec la télécommande greffée au cerveau, et sa première réaction, c'est que c'est quand même dommage qu'ici on ne puisse pas changer de chaîne, comme sur YouTube ou sur Dailymotion. Et donc le dispositif attentionnel que constituait la classe traditionnelle a volé un éclat. Il a volé un éclat, pas seulement sous l'effet des technologies numériques, mais sous une multitude d'effets, on n'a pas le temps de revenir dans le détail ici. Et ce que souligne Stigler avec beaucoup d'insistance, c'est que les efforts individuels pour s'époumoner à demander à une classe de nous écouter, par exemple, n'ont pas d'effet. Chut, taisez-vous, écoutez-moi, soyez attentifs. D'ailleurs, on continue à causer avant même que les élèves se soient tus, donc on leur envoie simultanément deux messages, taisez-vous, écoutez-moi, et de toute façon, ce n'est pas la peine de m'écouter puisque je continue à parler même quand vous ne vous taisez pas. Donc ces espèces de cet essoufflement, c'est l'arrivée de l'entropie, ça, justement. C'est de l'entropie. On s'essouffle à faire chute, chute, chute à des élèves qui continuent à causer, à ne pas nous écouter, au lieu d'instituer un dispositif attentionnel, c'est-à-dire de faire de la négantropie, et au lieu de créer de l'anti-entropie, c'est-à-dire de créer des situations dans lesquelles on sera dans une attitude d'adoption et non pas d'adaptation par rapport à notre environnement. Et là, on voit bien qu'il y a un défi éducatif. Alors, Bernard est toujours, c'est pas du tout une critique de sa pensée, bien au contraire, est toujours à un niveau quasiment planétaire quand il cause. Bon. Moi, je suis beaucoup plus modeste, je suis à une échelle, à l'échelle de la salle de classe ou du petit groupe d'élèves qui travaillent à 4 ou 5, donc à une échelle beaucoup plus réduite. Mais je pense qu'un certain nombre de ces concepts peuvent parfaitement s'adapter à l'échelle de la salle de classe et même du petit groupe d'élèves. Moi, certains d'entre vous le savent sans doute, mais mes premiers travaux ont porté sur les groupes d'enfants au travail, puis les groupes d'adultes au travail. Hein. J'ai observé des centaines d'enfants en train de travailler, et j'ai observé ce phénomène d'entropie. Je l'ai observé à travers ce que j'appelle la division du travail, c'est-à-dire quand vous mettez des enfants au travail, vous les mettez à 5 ou 6 autour d'une table, ce qui se passe, c'est que très vite, comme des adultes, vous avez un phénomène d'entropie tout à fait normal qui se passe avec une conception entre une division du travail, pardon, entre concepteurs, exécutants, chômeurs et gêneurs. Bon. Les concepteurs conçoivent, les exécutants exécutent, les chômeurs ne font rien parce que s'ils faisaient quelque chose, le produit serait raté, hein, puisque si on fait travailler les incompétents, on ne va pas faire dessiner le gars qui ne sait pas dessiner ou vérifier l'orthographe à celui qui est nul en orthographe. Et le gêneur, on le refile au groupe d'à côté. Bon. Et donc... le fonctionnement anthropique d'un groupe de 5 gamins qui doit faire un panneau sur un pays d'Afrique ou qui doit faire un texte, qui doit écrire une nouvelle ou résoudre un problème de maths, on le connaît, c'est la division du travail. C'est Taylor, il nous l'a dit, Stigler. C'est concepteur, exécutant, chômeur, gêneur. Dans sa terminologie, c'est le remplacement de la valeur par la richesse. Moi, je dis... du coût par le prix. Bon, je n'ai pas tout à fait la même terminologie, mais peu importe. Et lutter contre ça, ça veut dire instituer quelque chose. Alors on pourrait dire, par exemple, et je le dis bien volontiers, freiner, quand il parle de coopération, c'est de la négantropie par rapport à cette entropie-là. C'est-à-dire qu'il cherche à comprendre comment on peut faire en sorte que le groupe ne se... structure pas spontanément d'une manière anthropique. Ensuite, quand Freinet invente les brevets, ou qu'il reprend, pardon, il n'invente pas, il reprend la technique des brevets au scoutisme, à Baden-Powell, c'est parce qu'il observe d'une manière extrêmement précise que l'injonction à la coopération ne peut pas fonctionner sans que chacun ait quelque chose à apporter de précis au groupe, etc. Et donc, à ce moment-là... il est, d'une certaine manière, excusez-moi de filer la métaphore, un peu dans l'anti-entropie, là, à ce moment-là. Il va créer quelque chose qui va être de l'ordre de l'acquisition du savoir, au sens où le disait Stigler, de cette adoption d'un nouveau savoir, qui brise et qui fait émerger une vie. Alors, le mot « vie », prenez-le évidemment au sens le plus large du terme, hein, y compris au sens où l'utilisait Michel Serres, qui vient de nous quitter, c'est-à-dire ce qui précisément permet de lutter contre la mort. Moi-même, j'ai fait une petite recherche il y a quelques années autour de la question de l'écriture, où j'ai utilisé ces concepts dans l'acquisition de l'écriture. Qu'est-ce que c'est qu'écrire, hein ? Si ça n'est pas entré d'une certaine manière dans une forme de lutte contre la mort, ça n'est pas écrire. C'est acquérir des mécanismes standardisés. C'est-à-dire que l'écriture, pour être autre chose qu'acquérir des mécanismes standardisés, c'est une lutte contre l'entropie, c'est une lutte contre la mort, c'est une lutte contre la fugacité de la parole, c'est une lutte contre la disparition de la parole dès qu'elle est émise, c'est une lutte contre la fragilité de la parole, contre l'approximation de la parole, etc. C'est-à-dire contre l'entropie. Et on voit bien que l'écriture devient alors, et c'est là où on renoue avec la pensée de Stigler, l'écriture devient alors un exo. Terminez le mot.
Exosomatisation.
Oui, enfin, il faudrait
trouver.
Voilà, plutôt exorganisme, qui va permettre, par la stabilisation de quelque chose, d'entrer dans une Alors, vraiment dans une subversion par rapport à l'entropie traditionnelle. Et donc, la question, si on la transforme en termes pédagogiques, ça va devenir qu'est-ce que j'enseigne quand j'apprends à mes gamins à écrire ? Est-ce que je leur enseigne simplement l'obéissance à des comportements standardisés à caractère grammatico, stylistique, orthographique, etc., etc. Ou est-ce que je transmets un projet qui fait que l'écriture est une réaction contre l'entropie naturelle d'une parole vouée en permanence à la disparition, et ma parole est déjà en train de disparaître au moment où je l'énonce devant vous. Donc certains d'entre vous prennent des notes, d'autres les prendront plus tard, d'autres retrouveront ça dans un texte, etc. Mais vous serez dans la négantropie et dans l'anti-entropie si vous passez au stadosus, c'est-à-dire si vous entrez dans une écriture qui n'est pas simplement une prise de notes, mais une écriture qui sera créative. Et là, on peut voir sur la question de l'écriture l'écart chez Stigler entre négantropie et anti-entropie. L'écriture de celui qui prend des notes, c'est de la négantropie. C'est-à-dire il lutte contre la fugacité de la parole. C'est-à-dire il lutte contre la mort, quand même. J'écris parce que sinon c'est mort. À la limite, c'est ce que je fais quand je fais ma liste de courses. Hein. Non, je lutte contre la mort. C'est ce que dit Goody quand il explique comment l'écriture est apparue à travers les listes de courses, etc. Et puis si je passe à une écriture qui est une écriture de, on va dire, de création au sens un peu plus large, eh bien, j'entre dans l'anti-entropie. Et si j'utilise ce critère pour lire la dernière circulaire de rentrée, je m'inquiète. Je m'inquiète parce que je vois l'acquisition de l'écriture dégagée de toute anti-entropie, presque dégagée de la négantropie et revenir à l'apprentissage anthropique et conformiste, normalisation et non pas normativité. Normalisation, bon, faut que tout le monde sache écrire, et non pas normativité, découvrir que les règles sont essentielles, mais à travers le projet, qui est le projet de lutter contre la mort. Mais comprenez bien le terme mort, je ne le prends pas au sens biologique ici, enfin, quoique, mais je le prends au sens de l'entropie, justement. Hein ? Et dans le petit travail de recherche que j'ai fait sur l'écriture, j'avais montré, par exemple, que les gamins qui accèdent à l'écriture et qui, surtout, ne souffrent plus pour écrire, parce que c'est un critère intéressant. Moi, j'étais parti du travail avec mes étudiants de l'université, dont la plupart, quand je leur demandais d'écrire, disaient « Non, surtout pas. L'écriture, c'est la souffrance. Hein ?» J'avais observé que les enfants qui ne souffrent plus pour écrire sont ceux qui sont capables de transformer les contraintes de la langue en ressources pour la pensée. Alors, transformer les contraintes de la langue en ressources pour la pensée, c'est pas évident. La maîtresse me dit, par exemple, je prends un exemple tout bête dans mes situations que j'ai analysées en classe, il ne faut pas répéter un mot trois fois dans la même phrase et a fortiori dans le même paragraphe. La maîtresse a raison de me dire ça. C'est une contrainte de la langue. On peut être assez arbitraire au demeurant, rien ne s'oppose a priori à la répétition, si ce n'est que ce n'est peut-être pas très agréable à l'oreille. Et encore, la répétition chez Peggy est très agréable à l'oreille. Mais le gamin à qui on va interdire la répétition, il va le vivre soit comme une sorte d'interdit normalisateur et donc comme un empêchement d'accéder à l'écriture, soit comme un outil pour chercher des mots nouveaux, pour s'interroger sur la précision de son vocabulaire et pour aller chercher un certain nombre de termes qui vont l'aider à préciser sa pensée. Et à ce moment-là, il transforme les contraintes de la langue en ressources pour la pensée. J'avais fait un travail un peu plus précis sur ceux qui, parmi vous, enseignent dans le premier degré ou qui travaillent un petit peu sur la langue, ça leur dira quelque chose, sur un phénomène dont on sait aujourd'hui qu'il est fondamental dans la maîtrise de la langue écrite, qui est la pronominalisation, c'est-à-dire le fait d'utiliser le pronom. Pronom relatif, bon, j'ai cueilli des fleurs, les fleurs étaient rouges, j'ai cueilli des fleurs qui étaient rouges. Donc, la pronominalisation, c'est un outil d'articulation entre les unités sémantiques. Bon. J'avais travaillé sur qui utilise la pronominalisation et comment. Et on voit bien que les élèves qui vont utiliser et enrichir leur travail linguistique à travers la pronominalisation sont ceux qui ne sont pas dans l'entropie, sont ceux qui ont déjà perçu que l'écriture, c'était autre chose et que c'était une manière de lutter pour résister, au sens quasiment de Postman, à la mort de ce qu'on dit, au malentendu, à toute une série de choses qui relèvent de cette entropie pour résister à la... pour résister, alors, pas prendre l'exemple de Trump, mais pour résister à l'hégémonie de Twitter, quoi. Voilà, on dirait aujourd'hui. C'est-à-dire pour résister à un usage prolétarisé de l'écrit. C'est un usage de la répétition de formules, et ainsi de suite. Et je crois que là, les notions d'entropie, de négantropie et d'anti-entropie peuvent être utilisées. Alors, moi, je ne dis pas qu'elles doivent être utilisées. Il y a des tas de gens qui font travailler les personnes sur l'écrit sans utiliser ces concepts et qui ne s'en trouvent pas plus mal. Mais je pense que les utiliser donnent toujours, ou peuvent donner à certains, le sentiment d'être à la fois dans l'aspect le plus concret du travail pédagogique, mais de participer par cet aspect concret à des enjeux infiniment plus importants. Et pourquoi je trouve que c'est décisif de faire ça, c'est parce que c'est aussi un outil de lutte contre la prolétarisation. C'est-à-dire, dès lors que l'enseignant comprend que dans l'apprentissage de l'écrit se joue quelque chose sur le rapport à la mort et à l'entropie, il n'est plus dans la prolétarisation. Il est dans un modèle qui est quasiment hologrammatique, au sens où en parlait Morin, où en parle Morin, où en parlait de Peretti. C'est-à-dire, il est dans un modèle où la partie est aussi complexe et aussi importante que le tout, et reproduit le tout. Donc il n'est plus dans un modèle pyramidal, où il exécute des ordres, il est dans un modèle hologrammatique où ce qu'il fait avec la classe, ce qu'il fait avec la petite Sarah ou le petit Robert, ça n'est pas l'obéissance à des injonctions ou à des prescriptions algorithmiques qu'il exécute mécaniquement, c'est d'une certaine manière le processus, alors reprenons... non pas individuation, mais puisqu'il a cité Teilhard de Chardin, c'est le processus d'hominisation. C'est-à-dire que le processus d'hominisation, il se joue dans l'avenir de la planète, et là, évidemment, Bernard Stiegler nous donne des concepts absolument géniaux pour le penser. Moi, ce que je défends, c'est que ce processus d'hominisation, il se joue aussi dans la relation pédagogique, y compris dans ses aspects les plus ténus et dans ses décisions apparemment les plus microscopiques. Il y a du processus d'hominisation. Et sortir l'enseignant de la prolétarisation, c'est l'aider à accéder à cette conscience que la décision pédagogique la plus ténue est porteuse d'un enjeu de civilisation. Et ça, c'est très important. Ce que tu fais là, c'est porteur d'un enjeu de civilisation. Ce n'est pas simplement la manière dont tu vas construire le rapport à l'écrit avec tes élèves. Ce n'est pas simplement une question... d'efficacité immédiate, c'est un enjeu d'humanisation. Et le processus d'humanisation, il est à l'œuvre dans ton acte quotidien, et pas simplement dans le travail des ONG, et on s'en remet pas au secrétaire général de l'ONU pour ça, même si sa place est évidemment tout à fait essentielle et importante. Voilà, moi c'est très modeste ce que je vous dis, c'est regarder des concepts très ambitieux, très généraux. Je pense qu'on peut les regarder avec une lumière qui fait qu'ils éclairent des actes très quotidiens. Voilà. Mais sur le PS, que j'ignore totalement, moi j'ai été le pire élève de PS de ma vie, le dernier de la troisième vague, Benjamin, évidemment, vous montrerez ça avec beaucoup plus de vigueur et de compétences que je ne saurais le faire.
Merci beaucoup pour ces réponses particulièrement complètes. Il nous reste quand même quelques minutes, sept en théorie, pour peut-être reprendre une ou deux ou trois questions en théorie, mais bon, vu l'ampleur des réponses, peut-être qu'une seule
non,
sera...
Non, mais je pense qu'il faut prendre l'ensemble des prises de parole.
Ce qui serait intéressant, c'est peut-être justement que chacune puisse contribuer, enfin ose contribuer à intervenir, peut-être aussi pour subvertir les formes d'entropie amphithéâtrale. générales, parfois, qui peuvent se manifester. Donc, qu'on soit chercheur, hein, étudiant, étudiante, enseignant, on peut aussi témoigner de choses qu'on fait qui peut-être iraient dans les sens qui ont été proposés. Donc, j'ai deux prises de parole déjà.
Gilles Buxuan, contrairement à ce que a pu affirmer tout à l'heure Benjamin, ces notions d'entropie et d'égantropie ne sont pas tout à fait nouvelles, puisque dans le débat déjà entre Morin et Castoriadis, il parle d'entropie et d'égantropie, et les premiers écrits dans Socialisme ou Barbarie, par exemple, de Morin et Castoriadis, en 1948, sont déjà évoqués la question de l'entropie et de l'égantropie. Cette question a été reprise par Castoriadis dans les années 70 avec l'institution imaginaire de la société, dans laquelle, effectivement, qui pose le problème de l'instituant et de l'institué, et de l'autonomisation des institutions, le problème de la négantropie est abordé. Elle a été reprise ensuite, par exemple, par quelqu'un qui nous a tous dirigés ici, puisque Jean-Marc Monteil, dans sa thèse d'État sur la construction des savoirs dans les années 80, parle effectivement de négantropie comme seul moyen effectivement de parer à la différenciation qu'il fait très bien entre information, connaissance et savoir dans la problématique de la construction des savoirs. Mais je voudrais juste revenir sur un point. Chantal Amadesco n'est pas venue, c'est peut-être pas tout à fait par hasard, c'est parce que, sans aller dans la polémique, c'est une didacticienne. Elle a écrit beaucoup sur la didactique des disciplines. Or, une des divergences qu'elle peut avoir avec Stigler, c'est que c'est une partisane, notamment, des progressions. Alors, je suppose que dans la salle, il y a beaucoup de partisans des progressions, il y a beaucoup de didacticiens, mais les progressions sont calculables. J'ai moi-même coopéré à des logiciels, hein, et des CD-ROM pédagogiques dans lesquels, au départ, nous avions calculé, effectivement, mis en calcul ces progressions. En revanche, ce qui est incalculable, ce sont les bifurcations. Et dans les problématiques justement de transmission ou de savoir ou d'appropriation ou d'adoption, il n'y a pas de linéarité. Il y a toujours des ruptures, et autant la linéarité est calculable, autant les ruptures sont incalculables. Et donc, si l'on veut effectivement jouer sur la négantropie, il faut jouer sur l'incalculable, il faut jouer sur l'émergence, il faut jouer sur les bifurcations et sur ce qu'appelle Stigler, comment il appelle ça, les disruptions. C'est ça.
Donc la disruption, ça serait l'inverse en fait de la bifurcation.
Oui.
C'est quand à un moment donné, la technologie prend la main sur le cerveau, pour le dire rapidement.
Alors, c'est une discussion. C'est toute une discussion à avoir.
Vous êtes sûr de ça ?
Dans la disruption,
non, non. C'est toute une discussion.
Moi, je pense qu'il est plus nuancé
que ça. Tout à fait. Non, et je pense qu'effectivement, je veux juste mettre l'accent sur la différenciation entre calculable et incalculable, entre pédagogie de la progression et ceux qui pensent qu'effectivement, l'élève n'apprend pas de façon linéaire et par progression.
C'est un peu la distinction chez Arendt entre le travail et l'œuvre aussi, hein.
Est-ce que quelqu'un veut rebondir dans la salle ? Henri, tu voulais ? Non, c'est bon. Christian.
Bonjour, Christian. Là. Moi, je voudrais. Toute cette discussion de ce matin m'a fait penser à quelqu'un très fort, vraiment sur le plan pratique du travail éducatif, à Claire Hubert-Suffren et les échanges de savoir, les réseaux d'échanges de savoir, c'est-à-dire où chaque acteur est à égalité de possibilités de création et où l'on peut, mettre en place cette, alors là je crois que Philippe Berrieux et Sigler se rejoignent, cette force du travail contributif, mais réel, c'est-à-dire sans dominance de l'un ou de l'autre dans leur rapport au savoir. Et comment mettre en place des dispositifs, que ce soit au sein de la classe, au sein de l'école ou au sein d'une institution de formation, pour qu'il y ait cet équilibre collaboratif entre les différents acteurs qui feront de leur œuvre, justement, un dépassement de cette entropie qui nous guette tous à chaque coin de rue. Voilà, je voulais juste témoigner de cette référence qui me semble très concrète et qui se traduit, par exemple, à l'économie, avec toutes les monnaies qui se créent dans les territoires. C'est du même type. C'est-à-dire comment lutter contre cette force de l'entropie qui nous mène, au final, peut-être à la mort, enfin, au sens où Philippe l'a employé. Et c'est un nécessaire travail qui, si on ne le fait pas, nous fait prendre d'énormes risques que parfois les institutions, comment dirais-je, ne prennent pas en compte, comme les circulaires de rentrée scolaire, quoi.
Merci Christian pour cette précision. Moi je crois que les réseaux d'échange réciproque de savoir proposés par Claire et Marc et Bersuffrin sont un des modèles possibles de néganthropie ou d'anti-entropie. Mais je pense qu'il y en a d'autres. Moi je développe tout à fait simplement, mais parce que ça correspond aux derniers travaux de recherche que j'ai menés, la force très subversive au sens anti-entropie que représente la pratique simplement dans une classe de l'entraide entre élèves. Voilà. L'entraide entre élèves, pratiquement écartée depuis nombreuses années de la plupart des classes et du système éducatif tout entier, moi, j'ai pu montrer à travers l'observation que la systématiser, l'organiser, réserver du temps pour cela, représente en soi une manière de faire exploser l'entropie traditionnelle de la classe, l'individualisme, l'individualisation à la canguilhem, c'est-à-dire au sens des cellules cancéreuses, pour aller vers une reconnaissance que même l'autre, quand il ne sait pas, peut me faire progresser parce qu'il m'interroge sur ce que je sais et me permet de le savoir encore mieux. Donc on pourrait, c'est une idée que je défends beaucoup, on pourrait identifier des leviers relativement simples qui ne demandent ni autorisation du ministre, ni autorisation du recteur, ni autorisation de l'inspecteur d'académie, et qui permettent au quotidien, avec une formation et un accompagnement, c'est évident, mais qui permettent au quotidien de lutter contre les formes d'entropie de l'individualisme à l'Adam Smith, de l'individualisme des fables de la fable de Mandeville, qui est le fondement même du libéralisme, selon laquelle les vices privés font les vertus publiques, c'est-à-dire que l'égoïsme est la base du progrès. Voilà. Ça, c'est la matrice idéologique de ce que Stigler appelle le capitalisme. C'est la fable de Mandeville, qui est un très vieux texte, fable des abeilles, qui conclut par la fameuse aphorisme « les vices privés font les vertus publiques ». C'est-à-dire que chacun cherche son propre intérêt d'une manière égoïste, et cela va contribuer à construire le bien commun. C'est l'hypothèse sous-jacente, évidemment, de toute l'entropie capitaliste, pour parler comme Stigler, que nous vivons aujourd'hui. Bien, je pense qu'on peut la renverser, et qu'on peut la renverser par du minuscule. Et moi, je défends l'idée que ce n'est pas simplement les grands opérateurs qui sont en mesure de renverser cela, c'est chacun d'entre nous dans le quotidien. Et qu'il y a possibilité de décliner cela dans des choses relativement simples et élémentaires que parfois on s'empêche de voir ou qu'on ne veut pas voir parce qu'il est plus pratique de reporter toujours la responsabilité sur les mégastructures et de s'exonérer du travail du quotidien, du moindre geste, comme disait Deligny, dans ce titre de son film célèbre « Le moindre geste », et qui, moi, m'a beaucoup appris, c'est effectivement dans le moindre geste que s'expriment les plus grands idéaux. Voilà. Et je pense que nous avons tous à chercher à développer notre panoplie de moindres gestes. Merci Christian, en tout cas Christian le fait très bien, comme Gilles aussi, par rapport à un public particulièrement en difficulté, et on trouvera des exemples très, très éclairants de ce que peut être cette néganthropie, cette anti-entropie par rapport à des enfants autistes ou porteurs d'autisme. Je j'ai oublié la formule exacte, je m'excuse Christian, dans son dernier ouvrage.
Merci. Disons, une dernière intervention.
On est à la fin du temps réglementaire, mais on peut faire deux petites minutes de prolongation.
Oui, juste, tout ça me fait penser à un objet technique tout à fait concret qui illustre bien tout ce qu'on a pu dire aussi depuis ce matin. C'est la place du smartphone au collège, notamment l'interdiction du smartphone au collège. Effectivement, on est dans un truc un peu bizarre quand même, hein, où d'un côté, tout le monde sait qu'ils en ont dans la poche. Tout le monde s'accorde à dire qu'il va falloir les éduquer à l'utiliser de façon raisonnée. Mais d'un côté, personne ne le fait. Et d'un côté, on en a aussi besoin en classe de plus en plus, parce qu'effectivement, il y a plein d'usages vraiment intéressants de cet objet-là. Mais par contre, il y a une espèce de... Voilà, on ferme les yeux et on ne veut pas voir que juste passer la grille du collège, ils vont l'utiliser, et pas toujours de façon raisonnée.
Oui, c'est le vieux problème pédagogique de l'interdit. Est-ce que l'interdit, c'est... La répression de l'usage, ou est-ce que l'interdit, c'est ce qui se dit entre et ce qui est intériorisé et qui est compris comme étant une contrainte féconde. Voilà. Moi, j'ai beaucoup appris à cet égard d'un pédagogue relativement peu traduit et connu en France, bon, enfin si quand même, il s'appelle Korczak, qu'on va célébrer sans doute beaucoup cette année, puisqu'il est l'inventeur des droits de l'enfant et que c'est le 30e anniversaire de la Convention internationale des droits de l'enfant cette année, un texte ratifié par la France, hein, et texte qui, dans la hiérarchie des textes juridiques, est quand même un peu au-dessus des circulaires ministériels. Donc il faut là aussi que les enseignants sachent rétablir les bonnes hiérarchies. Hein. Y a la Constitution, les conventions internationales, et puis les circulaires ministériels, dans la hiérarchie, c'est quand même pas tout à fait au même niveau. Bien, j'ai beaucoup appris de Korczak. Hein. Korczak met hors la loi les bagarres et qu'il décide que les enfants ne doivent pas se battre et qu'il les punira s'ils se battent. Ils s'aperçoivent qu'ils vont se battre à l'extérieur. Hein? Jusqu'au jour où il imagine un dispositif particulièrement astucieux qui consiste à dire aux gamins, vous pouvez vous taper dessus autant que vous voulez, à bras raccourcis et chaque fois que vous le souhaitez, mais à une seule condition, c'est de prévenir l'intéressé par écrit 24 heures à l'avance. C'est-à-dire qu'il introduit une contrainte féconde, il introduit la contrainte de l'obligation de la réflexion. C'est-à-dire une contrainte qui n'est pas là pour avoir la paix, mais une contrainte qui est là pour permettre au sujet de développer sa pensée. Et il va en plus nourrir cette pensée par la culture à travers des tas de textes qu'il va écrire, le roi Mathias, etc., etc., et qui vont permettre à l'enfant de réfléchir sur ce qu'il fait. Et Korczak dit, si j'avais autorisé les enfants à se battre, ils n'auraient pas progressé. Si je leur avais interdit de se battre, ils se seraient battus à l'extérieur. Ce que j'ai fait, et qui est peut-être... La clé de toute éducation, c'est de leur dire oui, mais peut-être, non, pas tout de suite, on y réfléchit et on en parle ensemble. Et c'est là l'illusion aussi, me semble-t-il, de toute une forme d'éducation de notre modernité qui pense que, contrairement, qui n'a pas atteint le stade de la permanence de l'objet chez Piaget. Hein. Piaget nous explique que la caractéristique de l'enfant, vous savez, c'est la balle qui roule sous le canapé. L'enfant avant, je ne me souviens plus l'âge, je crois que c'est 18 mois ou quelque chose comme ça, il croit que quand la balle, il ne la voit plus, c'est qu'elle n'existe pas. Bon. Bien, je pense que beaucoup d'adultes, et parmi les plus haut placés, pensent qu'il suffit qu'on ne voit pas les choses pour qu'elles disparaissent. Donc les enlever de notre regard est finalement plus important que d'apprendre à les utiliser intelligemment. Donc il suffit de ne pas les voir et... les problèmes sont résolus. On est en pleine pensée magique. Et en tout cas, pas dans la pensée éducative, à mes yeux. On va peut-être s'arrêter là. Vous allez conclure.
Je voulais rebondir sur vos paroles, mais...
Rebondissez.
Non, parce que si on reprend la question des smartphones et qu'on reprend le modèle stiglérien, à un moment donné, il a parlé de grammatisation. La grammatisation, c'est quand les flux symboliques, par exemple la pensée, est déposé dans un objet de savoir. L'alphabet, par exemple, l'imprimerie ensuite, les appareils analogiques après, puis les appareils numériques. Donc le propos de Stigler et la réflexion de Stigler par rapport à ces algorithmes automatiques qui sont a priori plutôt utilisés par des gens qui ont envie de faire de l'argent avec, c'est de dire permettre aux enfants de comprendre qu'à un moment donné, ça va leur faire gagner du temps. Mais pour gagner du temps, il faut qu'ils aient compris que d'abord, c'était un savoir qu'ils avaient dans leur corps. Donc c'est d'abord un savoir corporel qu'on va éventuellement déposer sur du papier. Et ce savoir déposé sur du papier, éventuellement, on va le déposer dans une machine. Et quand on va comprendre comment fonctionne la machine, on ne sera plus prolétarisé par la machine. Parce qu'on n'est pas non plus forcément le programmateur de la machine. Tout le monde ne sait pas programmer des machines. Mais en tout cas, on peut comprendre comment ça fonctionne. Et tout le monde peut comprendre comment ça fonctionne. Donc si on reprend la question du smartphone, petit appareil qu'on peut mettre dans la poche, on peut tout à fait reprendre ce processus de grammatisation, permettre aux enfants de s'approprier des dispositifs dans lesquels ils comprennent comment évolue il n'en a pas tout à fait parlé tout à l'heure, mais du savoir et des espaces dans lesquels on dépose le savoir. Voilà, et la relation entre les deux. Et à un moment donné, quand je sais déposer mon savoir, ou la rétention tertiaire, mais il faudrait revenir sur la rétention primaire et secondaire, et là, il nous faudra une petite demi-heure. Mais voilà, donc les savoirs sont déposés sur des supports. Ces supports, quelque part, nous conditionnent sans nous déterminer. Et donc, si on comprend un petit peu comment ça fonctionne, on a des enfants qui peuvent avoir une espèce de lucidité, quelque part, par rapport aux appareils. Et on peut envisager toutes ces questions de numérique, toutes ces questions voilà, d'analogique, de télévision, comme ils ont parlé tout à l'heure de la télévision des années 50, qui est très différente de celle des années 80 et des années de 2010-2015. Voilà pour répondre.
Et sur cette question, pour rebondir une ultime fois par rapport à Benjamin, qui conclura définitivement cette fois-ci, je pense qu'il y a un chantier absolument colossal entre l'école et les parents. Je pense que cette question du numérique, et du smartphone en particulier, ne peut pas être travaillée sans associer ces deux acteurs éducatifs essentiels que sont les enseignants et les parents. Ce n'est pas possible. Et donc s'il y a aujourd'hui à réfléchir collectivement, à se donner un objet de réflexion commun entre les enseignants et les parents, et ça me paraît très urgent pour éviter un divorce qui me semble de plus en plus grave et difficile à enrayer, c'est bien de travailler ensemble sur le numérique. Je crois qu'il y a un objet de travail commun là qui devrait être pris corps à corps, enfin, dans tous les lieux éducatifs.
Allez. Eh bien, merci Philippe. On peut remercier Bernard Stiegler, bon, absent mais présent malgré tout. Philippe Mérieux, c'est quand même assez sympathique de pouvoir travailler avec ces deux grands chercheurs et deux grands penseurs. Merci de votre attention, parce qu'effectivement, on avait très peu d'appareils numériques pour pouvoir discuter, et l'attention était soutenue, et c'était un moment, je trouve, très agréable. On disposera des vidéos, si vous avez quelque part envie de soit de la distribuer à d'autres personnes, soit de revoir éventuellement des choses que vous n'aviez pas forcément saisies complètement dans l'instant, parce que la conférence était quand même d'une richesse très très importante. Et je vous souhaite pas bon week-end parce qu'on est mardi, mais une bonne continuation.
Et merci à Benjamin Delatte d'avoir permis l'organisation de cette journée, et bravo à lui pour la thèse qu'il a soutenue hier. Voilà, vous pouvez l'applaudir.